Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Merci Christelle. Et vous le savez, vendredi et samedi, des jeunes se sont rassemblés par centaines sur les grandes pelouses des Invalides à Paris, mais sans doute dans toute la France, pour des soirées Projet X, du nom d'un film américain de 2012, centré sur une fête de jeunes qui tourne mal. Alors ils ont dansé, le plus souvent agglutinés, sans masque et sans respecter les gestes barrières, avant d'être dispersés par les gaz lacrymogènes de la police pendant l'évacuation des projectiles. On visait les forces de l'ordre. Nous sommes donc avec Erel, qui habite Toulouse, qui est étudiante en sociaux. D'abord, je ne connaissais pas ce prénom, Erel, E-R-E-2-L, qui est un très joli prénom, Erel.
Merci, c'est breton.
Ah, et ben c'est pour ça. Alors, vous avez envie de soutenir peut-être les jeunes gens qui étaient sur la pelouse?
Oui, bah alors déjà moi, pour continuer de me présenter, je suis étudiante au Mirail à Toulouse, mais je suis aussi militante dans une nouvelle organisation qui s'appelle Révolution Permanente, et je voulais en fait apporter tout mon soutien à tous les jeunes et à toutes les personnes qui ont été réprimées en fait tout le week-end par la police et par le préfet l'allemand parce qu'ils sont sortis faire la fête. Et j'ai envie aussi de parler d'un deux poids deux mesures qu'on a aussi vu ce week-end, parce qu'en fait pendant que justement ces jeunes-là était en train de se faire réprimer par la police, on avait par contre le public de Roland Garros, qui était totalement autorisé, qui avait été autorisé par le gouvernement à braver le couvre-feu, à arrêter après 23 et à la demi-finale. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des situations qui se répètent un peu depuis le début de la pandémie, où en fait, il y a la répression qui s'applique sur les jeunes, etc., qui en fait sortent faire la fête. Mais par contre, quand on voit les Chalençons et avec qui invitent parfois des ministres faire des restaurants clandestins,
il n'y avait pas de ministre. Je vous interromps juste sur ce point-là. Il n'y avait pas de ministre. C'était une fake news. Mais il y avait des soirées, mais il n'y avait pas de ministre.
Il y avait des soirées clandestines dans tous les cas. Personne peut le nier. Mais du coup, qu'est-ce que ça montre en fait, cette situation de répression constante qui s'abat uniquement sur une partie de la population? Pour moi, en fait, c'est démonstratif. C'est démonstratif que le couvre-feu comme mesure, ce n'est pas une mesure qui lutte contre la situation sanitaire, puisqu'on voit qu'il y a certains qui peuvent s'en arroger et d'autres en fait qui se font réprimer. C'est une mesure qui permet au gouvernement de dire qui prend en charge des choses sanitairement, et pour autant d'appliquer une répression en fait féroce contre tous ceux qui ne le respectent pas. Et en fait, on le voit depuis le début de la pandémie, c'est la principale mesure qui a été mise en place par le gouvernement, c'est la répression en vérité, qui s'est abattue depuis plus d'un an et demi en fait sur des milliers de jeunes de quartiers populaires, sur des milliers de jeunes qui en fait osaient braver, en fait osaient sortir de chez eux après avoir été sur Zoom toute la journée pour en fait aller se balader. Et en plus de ça, avec une mesure qui est le couvre-feu, qui n'a pas jusque-là prouvé en fait son efficacité sanitaire. Moi, par exemple, j'habite à Toulouse, et en janvier, le CHU de Toulouse, ils ont sorti une étude qui disait que la mise en place du couvre-feu avait accentué la pandémie, parce qu'en fait, ça créer des clusters dans les transports parce que les gens avaient une heure limite pour rentrer chez eux. Donc en fait, tous les gens qui rentraient du travail, ils se retrouvaient en même temps dans le métro, dans les transports, etc. Et en fait, ça avait montré que ça avait même accentué les contaminations. Donc c'est une contradiction qui est énorme, et je trouve que
Erel, on ne peut pas vous donner tort sur le parallèle que vous faites entre la pelouse des Invalides et le stade de Roland-Garros. Moi, j'ai trouvé formidable, par exemple, que l'Élysée donne son accord. D'ailleurs, c'était Matignon qui a donné son accord pour que vendredi soir, les spectateurs de Roland-Garros ne quittent pas la porte d'Auteuil. J'ai trouvé ça formidable. Ça aurait été grotesque. Le match était sublime. Ça n'avait pas de sens. C'était ridicule. Mais en même temps, et là, vous avez raison, ça montre comment fonctionne le pouvoir. C'est que la pelouse des Invalides a été évacuée. Donc, c'est le fait du prince. Le prince n'accorde pas ses faveurs à tous. Le prince décide que le peuple a le droit à une demi-finale du Grand Chelem, mais le prince refuse qu'on batifole après 23 heures. Je ne peux pas vous donner tort sur votre démonstration, c'est le fait du prince.
Oui, mais par ailleurs, par rapport à ça, parce que c'est la manière dont gouverne Macron depuis le début de son mandat.
Non, mais ça, c'est autre chose. Vous êtes Révolution Permanente, c'est ça votre association?
Exactement.
Mais alors, c'est quoi au fond votre but? Parce que c'est de mettre par terre la société capitaliste et de la remplacer par une autre société?
Alors là-dessus, moi non plus, je ne peux pas vous donner tort, mais évidemment, en fait, je pense que depuis le début de la pandémie, on a vu.
Non,
en
mais
fait,
c'est quoi Révolution Permanente? C'est ça, c'est ce que je dis.
Ah,
c'est-à-dire
révolution.
Que. Je vous posais la question, puisque vous êtes membre d'une association Révolution Permanente. Donc je vous posais la question, c'est quoi le but de Révolution Permanente? C'est de mettre la société capitaliste par terre et de la remplacer par une autre société?
Exactement, mais en fait Révolution Permanente c'est une organisation qui vient de se monter, laissez-moi finir, c'est une organisation qui vient de se monter, qui vient d'être lancée par plus de 250 militants et qui en fait revendique la fin du système capitaliste et nous on combat en fait tous les jours pour mettre à bas ce système-là.
Mais alors qu'est-ce que vous voulez à la place ?
Exploite et éprime la majorité de toute la population pendant qu'en fait il y a une minorité qui se gave en faisant des profits.
D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez à la place, Erel ? C'est ça qui m'intéresse parce que j'aime bien essayer de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez à la place ?
Ben nous, écoutez, en fait, on lutte pour que, en fait, toute la population, et notamment là, même dans le contexte, dans le contexte actuel de la pandémie, que la population, en fait, soit au centre des décisions. Et de ce point de vue-là, nous, on lutte, en fait, pour éliminer et pour, en fait, combattre tous ceux qui font des milliers de profits contre nous et que, en fait, le pouvoir, il revienne à l'ensemble de la population. Donc, en fait, on arrête d'être exploité par le système capitaliste salarial, etc. Et qu'on, en fait, enfin...
D'accord. Donc c'est, on a vu ce que c'est. Alors d'abord bonne chance, mais ça a été parfois tenté, ces expériences-là. Elles n'ont pas été concluantes, convenez-en, RL, au XXe siècle. Mais c'est vrai que le capitalisme a pas mal de défauts, sans doute, mais qu'a priori, il permet d'être libre, d'une forme de liberté, en tout cas, alors que les autres systèmes qui ont parfois été tentés, convenons que ça a été plus dur. Mais on va marquer une première pause, et je remercie RL, évidemment, que je ne connaissais pas, qui nous appelle de Toulouse, qui est étudiante en sociaux, et c'était toujours intéressant d'entendre des voix nouvelles sur l'antenne. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Laurent Tessier. Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir et cette question. Le couvre-feu à 23h est-il tenable ? Faut-il le supprimer dès maintenant et ne pas attendre le 30 juin ? Vous avez peut-être vu les images de ces jeunes rassemblés par centaines sur les grandes pelouses des Invalides vendredi et samedi soir à Paris.
On en a marre des restrictions, il faut nous laisser vivre.
Les étudiants surtout ont besoin et envie de faire la fête. Mais ça me fait aussi du bien de voir vivre un peu tout le monde.
On ne peut plus être des esclaves à rentrer à 18h et dormir à la maison.
Des fêtes qui ont énervé l'infectiologue Benjamin Davido, invité de RTL Midi.
Je trouve que c'est un bras d'honneur aux soignants.
Faut-il aussi en finir avec le port du masque en extérieur ? Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, nous avait donné de l'espoir ce matin sur RTL.
Bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent.
Un peu plus tard, le ministère de la Santé a déclaré aucune décision n'a encore été prise, mais tout de même, est-ce raisonnable d'enlever le masque en extérieur début juillet ? La réponse de l'infectiologue Benjamin Davido.
À partir du moment où on aura 50% de primo-vaccins dans la population, et si mes calculs sont bons, ça nous amène au 30 juin, on pourra clairement lever le masque en extérieur. En effet, en extérieur, on ne prend pas de risque à enlever le masque.
Pour Dom, sur la page Facebook de l'émission, le couvre-feu n'est pas tenable chez les Gaulois réfractaires. De plus en plus de jeunes se moquent des lois. Ils ne sont même pas capables d'attendre 15 jours de plus avant de faire la fête toute la nuit. Regardez aussi les adultes un peu plus âgés, répond Delphine. Certains feraient bien aussi de montrer l'exemple. On veut respirer tranquillement, demande Marion. On veut se balader dans les rues sans masque jusqu'à pas d'heure. Nous avons tous fait des efforts. Laissez-nous vivre.
Alors, on comparait, Erel, et je la rejoignais là-dessus, comparait la situation aux Invalides et la situation à Roland-Garros. C'est vrai qu'à Roland-Garros, quand même, le pass sanitaire était en place, faut le préciser, que tu entrais dans les gradins, soit tu étais vacciné, soit tu pouvais prouver que tu avais fait un test PCR
antigénique de moins de 48 heures.
Voilà, moins de 48 heures avant de pénétrer dans le stade. Donc, la situation est un poil différente. Mais il n'empêche que symboliquement... Ça, moi j'ai entendu ce week-end des gens qui effectivement étaient étonnés de cette différence de traitement. Nous sommes avec Elisa qui est étudiante. C'est bien d'avoir des jeunes personnes au standard. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Bon, vous étiez vous sur la pelouse des Invalides vendredi et samedi ou?
Alors juste samedi.
Juste samedi.
J'habite aux Invalides, donc j'ai tout vu.
Bon, je disais tout à l'heure, c'était Woodstock, c'est une vieille référence. Vous n'étiez évidemment pas né, c'est en 70 Woodstock, mais c'est quand même bon. Vous savez ce que c'est, bien sûr. C'est tous ces jeunes qui sont sur la pelouse et bon, qui fument, qui boivent. Et est-ce que vous pouvez vous connaissez d'abord le film Projet X, parce que manifestement tous les plus jeunes connaissent ça. Moi, j'ai découvert ces dernières heures Projet X.
Alors, les plus jeunes, je ne sais pas, ceux qui étaient aux Invalides étaient manifestement bien mineurs, donc je ne sais pas s'ils connaissaient réellement le film Projet X. Mais à vrai dire, c'est une référence populaire qu'on connaît à peu près tous les moins de 25 ans, on va dire.
Et alors, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est ce film Projet X ?
Alors, Projet X, c'était tout simplement une énorme fête, un film donc qui concernait une énorme fête, mais j'avoue ne pas l'avoir vu, donc je connais juste la référence.
Voilà, ça tourne mal, et c'est centré sur une fête de jeunes qui, effectivement, tourne mal, et j'ai envie de dire, elle tourne volontairement mal, le but, c'est que ça tourne mal, vous voyez,
c'est bon.
Bon, et alors, comment vous avez vécu cette soirée aux Invalides?
Alors, c'est vrai que c'était vraiment une vraie grosse soirée. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'affrontements vers la fin. Mais sinon, au départ, on avait beaucoup de jeunes qui dansaient. Il y avait beaucoup de musique, évidemment. Mais vraiment pas beaucoup d'affrontements. À partir de 22h, les camions de police ont commencé à avancer vers les Invalides pour tous nous rabattre et en fait commencer à évacuer le grand nombre de personnes. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure des rassemblements Covid, tout ça. C'est vrai que là, on n'a vraiment pas beaucoup vu de masques. Il n'y avait pas du tout de distanciation sociale. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentrée avec mes amis bien avant le début des affrontements plutôt. Il n'y avait pas encore de tirs de lacrymogène comme ça. Mais en fait, les policiers ont commencé à évacuer les Invalides vers 22h en fait pour respecter le couvre-feu, je pense.
Oui, non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Et ça s'est terminé globalement sans heure particulière, disons-le.
Alors, sans heure, je dirais pas. J'ai vu une voiture bélier foncer sur la foule quand même.
Ah bon ?
Chez moi. Oui.
C'est pas arrivé jusqu'au. Il me semble pas, en tout cas, avoir lu cette information que je peux pas vérifier d'ailleurs ce que vous dites. Je vous crois sur parole. Mais une voiture bélier qui a foncé sur la foule.
Alors, en fait, du haut de mon appartement, on voit la place du café de l'Esplanade.
Oui.
Et une voiture s'est fait encercler donc par la foule, parce que la foule était donc sur la route. C'était vers 23h, donc c'était vraiment le reste des jeunes qui étaient là vraiment, je pense, pour les affrontements.
Ouais.
Mais elle s'est retrouvée encerclée. Avec
j'ai vu cette image. Elle est rouge, la voiture.
Il me semble, oui.
C'est pas une voiture bélier qui a foncé, c'est la pauvre, elle a été prise encerclée par tout le monde et tout le monde est monté sur sa voiture.
Elle est montée sur la voiture et elle a accéléré tellement fort qu'elle a renversé les passants qui étaient devant et sur le capot, et ça m'a vraiment choquée pour le coup, je n'avais jamais vu ça. Et c'est vrai que ça m'a énormément choquée de voir, je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place, mais c'est vrai que j'aurais plutôt été... tétanisée plutôt que...
Je pense qu'elle l'était, et c'est peut-être d'ailleurs la peur qui a créé cela, mais vous dites qu'elle a renversé des gens, je ne pense pas qu'il y ait de blessés, hein. J'ai pas lu en tout cas.
Je ne pense pas non plus, ouais. J'espère qu'il n'y en ait pas eu, en tout cas elle s'est fait courser par le reste des jeunes, j'espère en tout cas qu'ils ne l'ont pas rattrapée, parce qu'elle aurait eu beaucoup plus de dégâts sur sa voiture que s'il n'y avait rien eu.
Bon, merci en tout cas, Elisa. Merci de votre témoignage. Souvent, quand on est avec des étudiants, on s'inquiète un peu de la situation des études. C'est fini, là, hein, je crois. Tous les examens sont terminés. Vous êtes en vacances?
Exactement. Oui, bon. Moi, oui.
Bon, et vous êtes vous passez en deuxième année?
Je passe en troisième année, oui.
À 19 ans, troisième année? Et non, vous perdez pas de temps. Vos parents doivent être contents et fiers de vous. Qu'est-ce que vous faites, Elisa?
Je suis en journalisme.
À journalisme? Où ça?
En plus. À Paris, oui.
Paris 8, donc ça c'est là, il y a une fac, comment ça s'appelle le cursus?
Alors c'est communication, médias et médiatisation.
D'accord, écoutez, c'est bien, hein, vous avez raison d'appeler, c'est comme ça qu'on commence le métier et en donnant son avis, et il était pertinent. Merci beaucoup Elisa, merci.
Au revoir.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Voilà la chanson qu'il faut pour les plus jeunes. Laissez-nous chanter le peu d'amour qui nous reste. Mais je les comprends, ces jeunes. Laissez-nous rêver, ça va être difficile avec les années qui arrivent. Mais bon, on va essayer. Bonjour Paul.
Bonjour Pascal, allez-vous?
Écoutez, ça va bien, vous êtes dans le Var, vous êtes chef d'entreprise. Je ne suis pas sûr que vous ayez plus chaud que nous aujourd'hui, parce qu'il fait très chaud à Paris.
L'eau de la piscine chez moi est à 27 degrés.
Écoutez, là, excusez-nous, cher ami. Je veux dire, nous vivons dans des appartements à Paris. Nous n'avons pas de piscine et de maison. Pardonnez-moi. Vous avez la belle vie. Bon, Paul, dites-nous ce que vous pensez de ces images.
Alors, d'abord, une chose, c'est que vous m'avez fait rappeler ma jeunesse en parlant de Woodstock, quand même.
Ah oui, vous étiez à Woodstock ?
Oui, j'étais à Woodstock.
Non.
Et après, on allait sur la route de Katmandou.
Vous avez eu une vie, vous étiez... Vous êtes un baby boomer en fait. Vous aviez 20 ans en 50, non, en 70.
En 70, ouais, je suis né en 51, donc 70, c'était la belle époque. Hein. Non, mais qu'on les laisse vivre ces jeunes quand même, parce que je vais vous dire, c'est d'un ridicule total de vouloir enfermer les gens comme ça. Et jusqu'à présent, aucun gouvernement ne m'a prouvé par A plus B qu'il y a eu plus de contamination dans des soirées comme ça qu'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu le DJ qui avait fait 2500, une soirée avec 2500 personnes qui avaient été arrêtées. Eh bien, on n'en a plus entendu parler. Soi-disant, c'était très dangereux. Soi-disant, c'était la vie des personnes qui étaient en danger et tout. Et puis, pouf, tout s'est arrêté. On n'entend plus. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de contamination qu'on le dit. Il y a beaucoup de contamination pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est beaucoup plus dans le monde qu'à mon époque, que dans les années 70. Ça, c'est clair et net. Mais je pense pas qu'il y ait, vous savez, je voyage beaucoup. Les gens, il y a, ce qui est sûr, c'est qu'il y a il y a de l'anxiogénité chez les gens. Ça, c'est vrai. Parce que le fait de sortir pour acheter quelque chose l'autre fois dans un magasin sur une casse auto, la personne m'a vu rentrer, j'avais le masque et tout, mais elle voulait surtout pas entendre parler de Covid alors que je discutais avec une employée, quoi. C'est ça qui est grave. Mais les jeunes, on doit les laisser vivre maintenant. Moi, j'ai des jeunes, j'ai une fille de 17 ans, un gamin de 22, un autre de 23 qui sont encore avec moi à la maison. Ben, ma fille de 17 ans est partie avec 6 autres jeunes ce week-end à Porquerolles. Bon, mais il faut les laisser s'oxygéner parce qu'en plus, ils ont les examens dans 2 jours. Le 17, ils passent l'oral. Donc il faut quand même les laisser vivre, parce que sinon ça va être atroce pour eux, les pauvres. Hein.
Non mais, ce qui est terrible, j'entendais tout à l'heure Benjamin Davidot, et je comprends, évidemment, il est puis infectiologue, et il dit, c'est un bras d'honneur aux soignants, les images qu'on a pu voir ce week-end. Donc évidemment, la discussion s'arrête.
Ouais.
Parce que moi, je ne sais pas quoi répondre. Donc, dans ces cas-là, c'est un bras d'honneur aux soignants. À chaque fois, tu es hyper culpabilisé. Moi, ce que je remarque, c'est que les épidémiologistes ou infectiologues les plus, comment les qualifier, les plus enfermistes, lorsqu'il y a un ou deux mois, le calendrier a été donné du déconfinement, ils n'avaient de cesse de dire que ça ne marcherait pas, qu'il y aurait des soucis, etc. etc. À l'arrivée, ils se sont plantés. C'est ça qu'il faut dire. Ils se sont plantés. Et la vérité, c'est que cette épidémie, il y a un truc qui est fascinant, c'est la saison. Moi, je suis même étonné comment ça baisse, pour tout vous dire. Parce que on m'explique qu'il n'y a pas de rapport entre la vaccination, par exemple, et le fait que ça baisse. Donc ça baisse principalement à cause de la saison. Ce qui veut dire que, d'ailleurs que ça va repartir en septembre ou octobre. Mais ce qu'on fait en ce moment n'aura pas de conséquences sur l'automne. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut vivre... On verra ce qui se passera en septembre et octobre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de contamination. Bah, ouvrons les robinets, qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
Mais moi, c'est sûr. Et puis, je vais vous dire, les infectiologues, ils sont gentils, mais ils prêchent pour leur église. Hein, parce que moi, je n'accuse pas les infectiologues, je n'accuse pas les soignants non plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on oublie une chose, on noie le poisson dans l'eau. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 40-50 ans, on avait plus de 30 000 lits de réanimation. Là, on n'en a plus, on a 5 000 lits. C'est un ridicule total. Et ça, on noie le poisson en disant, en fait, attention, moi, qu'on me prouve, pourtant j'ai 70 ans, qu'on me prouve par A plus B que la maladie, la pandémie qui vient de sortir, elle était très dangereuse pour moi. J'ai voyagé, j'étais en Belgique, je suis parti partout, j'ai continué à travailler normalement, je n'ai rien eu. Je me suis fait vacciner parce qu'on dit maintenant, pour voyager au Moyen-Orient, il faut qu'on ait des vaccins. Donc, je les ai fait, les deux. Mais maintenant que j'ai fait mes deux vaccins, on me stipule que quand je dois aller au Moyen-Orient, c'est pas bon parce que c'est les vaccins européens et c'est pas reconnu par les pays du Moyen-Orient pour l'instant. Alors j'ai dit, mais ils mettent encore les charrues avant les bœufs. Au lieu de se mettre d'accord entre eux pour laisser les gens voyager, non, on vaccine et puis après on voit si on peut ou pas voyager. C'est un ridicule total. Il n'y a aucune cohésion dans leur système. Qu'on laisse vivre les gens, c'est très important. Et
Évidemment la bonne solution, c'est jamais facile, mais c'est vrai que j'entends Jérôme Salomon ce matin qui dit le 30 juin ou le 1er juillet le masque saute, et tu sens derrière que le ministre de la Santé n'est pas content de cette annonce. Et il y a quelque chose qui, effectivement, est un peu fatigant, quoi. L'histoire du masque à l'extérieur, là encore, tous les gens t'expliquent que ça ne sert à rien, le masque à l'extérieur.
Bien sûr, ça sert à rien, je vais vous dire.
Donc, si ça sert à rien, qu'on l'enlève. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Pascal, je vais vous dire honnêtement, depuis le début, à l'extérieur, je n'ai jamais porté de masque. Pourtant, j'ai du cholestérol, du diabète, je suis une personne à risque. J'ai vécu normalement, sans stresser, sans rien. Effectivement, je touche du bois, j'ai rien eu. Par contre, il faut signaler aussi qu'au départ, les gens qui sont décédés, il faut être réaliste, beaucoup ont été endormis et n'ont pas été réveillés. Et je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec le Covid pour une seule et bonne raison. C'est que mon cousin a fait de l'asthme à 61 ans. Il est rentré à l'hôpital bien avant le Covid. On a voulu l'endormir, on l'a endormi. Et quand on l'a réveillé, il y a une bactérie qui s'était mise. Hop, il est décédé de suite.
Je veux pas rentrer là-dedans parce que cette maladie, elle a fait de nombreux morts, bien sûr, de nombreuses souffrances, etc. Donc je veux pas entrer là-dedans et remettre en cause l'idée même de la maladie comme vous semblez le faire. Ça sera pas mon propos. Mais en revanche, sur les mesures, je pense qu'on doit aujourd'hui, pour conclure avec vous, quand ça s'empirait, on durcissait les mesures. Quand ça va mieux, on n'assouplit pas les mesures. C'est toujours dans le même sens. Ça, c'est pas normal. La pause et à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 32-10 sur cette question. Les politiques sont-ils encore respectés aujourd'hui? Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a reçu de la farine samedi au départ d'une manifestation contre l'extrême droite.
Non mais faites attention que la prochaine fois, il ne me balance pas un coup de couteau. Hein. J'en ai sur la tête. Bon, ça va, je n'ai pris que de la farine, je suis vivant, tout va bien. Alors je dis à ceux qui ont des projets à mon sujet qu'ils ne me font pas peur et ils ne m'empêcheront pas de faire aussi longtemps que je peux ce que j'ai à faire.
La gifle reçue par Emmanuel Macron la semaine dernière, des échanges tendus entre le ministre Éric Dupond-Moretti et le candidat RN au départemental Damien Rieu, l'enfarinage de François de Rugy vendredi soir, la campagne présidentielle notamment risque-t-elle d'être violente? Didier s'emporte sur la page Facebook de l'émission que les politiques commencent déjà par nous respecter à force de provoquer, rajoute Carole, on peut arriver malheureusement à ce type de comportement. Mais attention, prévient Laurence, certains peuvent en sourire de voir des politiciens enfarinés, mais jusqu'où ira-t-on? On ne peut pas cautionner cette violence. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10, 3-2-1-0.
Et pour faire le pont avec la conversation qu'on avait avec Paul, Dominique Costagliola. Dominique Costagliola, c'est pas n'importe qui. Elle est épidémiologiste, elle est directrice de recherche à l'INSERM. C'est une dame qu'on a vue vraiment très fréquemment, et notamment, pour ne pas les citer, sur BFM. Le 19 avril 2021, elle dit « Je ne vois pas comment on peut espérer une baisse massive des cas d'ici fin mai ». Voilà ce qu'elle dit il y a moins de 2 mois. « Il semble qu'on soit sur un plateau haut », disait-elle ce jour-là, « pas vraiment une baisse notable, que ce soit à l'hôpital, en réanimation. On n'est pas dans une situation qui permet d'espérer une embellie proche ». Elle s'est complètement trompée. Ce qui m'étonne moi d'ailleurs, parce que c'est quand même son métier. Je n'arrive même pas à comprendre comment elle s'est trompée. Si elle dit « je ne sais pas », ça ne m'ennuie pas. Mais elle dit, et ces gens-là ont quand même un vrai, un vrai pouvoir d'une certaine manière, parce qu'ils influencent la société, il dit « ça va mal se passer ». Donc c'est des discours de peur, c'est des discours insupportables, et moi j'en ai assez d'entendre ces discours de gens qui se trompent. Eh bien, je le dis.
Elle n'est pas seule à se tromper, après.
Mais bien sûr, on est à moins de 5000 par cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fascinant d'ailleurs, on est à moins de 5000 par cas. Si on est moins de 5000 par cas, très bien. Moi, je ne veux plus les entendre, puisqu'ils se trompent. Nous sommes avec Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour Pascal.
Et merci. Vous êtes pharmacien, Benjamin.
C'est ça.
Votre avis m'intéresse alors.
allez, on y va, je vais pouvoir vous expliquer un peu ma façon de penser par rapport à ça. Comme je le disais à Olivier au téléphone, je comprends tout à fait le besoin de se retrouver, de sortir des jeunes. On voit, nous, au comptoir, suffisamment de jeunes qui passent sous antidépresseurs tellement ils n'en peuvent plus que pour comprendre ça. Et d'ailleurs, je les encourage à reprendre du lien social. Mais il y a des règles en extérieur. Et la règle, pour l'instant, c'est le port du masque. Et qu'ils fassent la fête, je comprends tout à fait. Voilà. Maintenant, je ne comprends pas en quoi ça dérange. Voilà. Sur la soirée, de porter le masque.
Vous comprenez pas en quoi ça dérange de porter le masque dans une soirée?
Ben oui, durant la soirée.
Non mais Benjamin, vous êtes sérieux? Moi, je vais aller dans une soirée, je vais porter un masque.
Je vais juste pour vous expliquer. C'est, on peut se retrouver, aller danser, voilà. On se met par groupe de 6 entre amis, un peu à l'écart, pour pouvoir discuter si on veut. On commence à boire par groupe de 6, c'est un peu comme au restaurant. Voilà, on a une légère limite de distanciation. On est par groupe de 6, on est entre nous, on boit, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va dans une foule où il y a une grande concentration de personnes. on se protège directement avec le masque. Je vois pas en quoi ça dérange. Vous avez des sportifs qui font du sport, comme moi j'en vois courir avec le masque. J'ai des amis au volley qui, quand on pouvait jouer au volley, enfin, ça reprend, on joue avec le masque et ça pose aucun problème. Donc danser avec un masque, je vois pas en quoi ça pourrait poser problème. Et c'est ma façon de penser en tant que professionnel de santé, parce que vous parliez tout à l'heure de on est à moins de 5000 cas et au niveau de l'été, ça va diminuer, ça peut diminuer, comme ça peut restagner. L'été dernier, en fait, il y a eu quand même des clusters qui ont apparu un peu dans certaines régions de France et qui ont permis d'entretenir cette infection. Et le problème, c'est que en septembre, octobre, partir de 200 cas de Covid ou partir de 500 cas avec le coefficient multiplicateur, on n'arrive pas au même chiffre de mois.
Benjamin, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous n'en savez rien et personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Que si ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences à l'automne, personne n'en sait rien. Moi, c'est ce qui me frappe. Je vous dis, les plus grands épidémiologistes, infectiologues, vous les interrogez le 15 avril, comme la dame que j'ai citée tout à l'heure, ils te disaient que ça ne marcherait pas.
Oui, non, alors, je sais, je ne peux pas prédire, je suis d'accord. Je suis d'accord avec, excusez-moi, Pascal,
je vous en prie, c'est, en plus, c'est, je vous rappelle que c'est les auditeurs ont la parole.
Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas savoir au nombre de cas qu'on aura encore en septembre. Et peut-être qu'on sera à zéro et je serai le plus heureux des hommes, je vous le promets.
Bah là, on sera vacciné, c'est ça qui est différent. C'est-à-dire que là, oui, il y aura des gens vaccinés. Mais autrement, manifestement, la saisonnalité dans cette épidémie, elle est décisive.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'être dehors, il y a moins de contamination. Mmh. Et c'est pour ça que sur les invalides, ils sont là jusque 22h, 22h30, 23h, à profiter de l'extérieur, à être ensemble. Je le comprends tout à fait et j'encourage les gens à aller à l'extérieur et de retrouver du lien social. Mais voilà, il y a toujours cette protection qui est demandée. Et c'est ce qui m'embête quand les gens s'estiment que le port du masque.
Mais la vie, c'est, comment dire, on peut tous rester chez soi hein, pour ne jamais rien avoir. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, il y a un moment où la vie, c'est pas simplement ne pas avoir le Covid, quoi. C'est ça que. Je veux dire, quand tu es aujourd'hui à moins de 5000 cas sur 66 millions de personnes par jour, et que à l'extérieur, moi je parle qu'à l'extérieur, hein. Sur le fond, je pourrais dire la même chose à l'intérieur, mais je veux même pas me risquer sur ce débat-là, parce que bon, là, je vais m'attirer les foudres, on va me dire que c'est un bras d'honneur aux soignants, donc moi, je reste uniquement sur l'extérieur. Merci en tout cas, Benjamin. Merci, merci beaucoup. Et nous allons marquer une nouvelle pause. Greg Caradoni, le week-end a été bon?
Bonjour à tous, oui, il a été très bon, merci.
Bon.
J'ai porté mon masque avec beaucoup de, comment dire, rigueur.
Mais oui, parce que vous avez, d'abord, vous avez raison d'être rigoureux. Il faut l'être. Mais il faut que.
Bien sûr.
Mais je prends cette petite phrase comme peut-être une opposition à ce que je pouvais.
Non, pas du tout. Je ne suis pas toujours exemplaire. Je dois l'avouer.
Bah, qu'il l'est. 13h38, la pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Fabrice qui est policier et qui voulait peut-être relativiser ce que nous avons dit sur la pelouse des Invalides. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pascal Pro, oui merci de dire relativiser, on va dire. Essayer d'apaiser les débats entre Benjamin que je félicite pour continuer à se dire que les précautions sont toujours d'usage et une étudiante qui compare entre guillemets les Invalides à Woodstock. Il faudrait peut-être déjà savoir ce que Woodstock représentait à l'époque.
Oui, c'était une image.
Voilà, oui, mais une image qu'on doit comparer aussi ce qui est comparable. Moi, je voulais en revenir simplement en tant qu'auditeur et en tant que policier de se dire que, alors oui, on retient encore l'intervention des forces de l'ordre. N'oublions jamais que les forces de l'ordre, moi j'ai 48 ans, et je fais partie d'un équipage où nos collègues aussi à Paris interviennent, et on reçoit des ordres. L'évacuation n'est pas propre, entre guillemets, aux gardiens de la paix, aux fonctionnaires qui interviennent. On reçoit des ordres, on doit faire évacuer les lieux, parce que bah, y a encore des mesures sanitaires qui sont en vigueur, et voilà, de par le gouvernement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que demain, nos effectifs, on a une échéance, qui est le match France-Allemagne. Et demain, à 23h, le couvre-feu sera toujours d'actualité. Mais vous n'empêcherez pas tous les fans de l'Allemagne, enfin, ou des Portugais, en France, multiculturalistes, on va dire.
Le match est à 21h en plus.
Oui, il est à 21h.
Ouais, donc, effectivement, mais vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Très bonne remarque, ouais. Parce que les gens vont être dans les bars, etc. Pour peu que ça se passe bien, ils ne vont pas vouloir rentrer chez eux.
Les bars, je pense que les tenanciers, tout ça, vont gérer au mieux, on va dire, hein, mieux. Et dans la majeure partie, normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, après, les concerts de klaxon et tout ça, c'est pas ça qui va, entre guillemets, propager la pandémie, et si, et là. Mais par contre, les rassemblements, à partir de 23h, un petit peu comme des fanzones et tout ça, vous ne pourrez pas l'empêcher. Parce qu'une victoire de la France, bah, c'est une victoire de la France, vous savez très bien.
Bien sûr.
Un journaliste de football, vous savez très bien que l'enthousiasme du football, c'est que vous ne pourrez pas empêcher, même moi, sur mon balcon, d'agiter le drapeau, même si je ne prends pas le volant derrière. Mais parce que la France aura gagné, aura fait un résultat.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, Fabrice, que faut lever le, faut être tolérant demain soir, faut faire une dérogation demain soir.
Alors, vous voyez, la tolérance et la dérogation, elle a eu lieu à Roland-Garros, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'étudiant de dire, de comparer les invalides avec Roland-Garros et critiquer Roland-Garros. Roland-Garros, allez, il y a eu 23 minutes de rab. De radio, quoi. Hein, pour dire que la demi-finale, femme, puisse. Voilà, il y a eu un coup de fil de l'Élysée, téléphone rouge, il a sonné.
Bon, c'était Matignon d'ailleurs, mais bon, l'Élysée devait être dans la boucle, mais c'est officiellement, c'est Matignon qui a donné le feu vert.
Voilà, mais bon, le feu vert a été donné, et les gens à Roland-Garros ont tout respecté. Je pense que M. Guy Forget et tout ça est quand même quelqu'un qui sait quand même gérer, et ça s'est très bien passé à Roland-Garros. Maintenant, pour en venir au football, et pour vous donner un exemple, demain, moi, dans mon commissariat, que je ne citerai pas, vous avez 4 effectifs de nuit. Comment à 23h on va pouvoir, entre guillemets, gérer?
Mais ça veut dire quoi, 4 effectifs de nuit? C'est 4 personnes, vous voulez dire?
Oui, vous avez 4 effectifs, et encore.
Mais 4 effectifs, c'est 4 personnes.
Bah, 4 personnes.
Ce que vous appelez un effectif, c'est quoi? C'est une personne?
Non, en fait, c'est une patrouille de 3 ou 4 effectifs. Donc
ah, d'accord. Donc c'est une quinzaine de personnes.
Ouais,
ça dépend, c'est une grande ville, petite ville, ça dépend.
Quand même.
Bah oui, comme je sais pas. C'est une ville de combien d'habitants?
Sans la cité, c'est la ville des Jeux Olympiques de 92, quoi. Voilà.
Ah, d'accord. C'est les Jeux Olympiques d'Albertville.
Mais j'ai pas cité de nom.
Bon.
Vous voyez, comme quoi, vous êtes très fort, monsieur Bastien.
Bon, je suis très fort. Non, mais je vais regarder surtout combien il y a d'habitants dans la ville dont on ne cite pas le nom. C'est comme Voldemort. C'est le nom qu'on ne doit pas.
Vous venez de le faire pourtant.
Ben oui, mais après, je l'ai cité. Non, mais si, parce que c'est intéressant. C'est intéressant.
On n'a pas les effectifs. On n'a pas les effectifs.
Bon, il y a 18 000 habitants, c'est ça? Il y a 18 000 habitants et vous avez 15 personnes pour la nuit, quoi. Donc ça fait un policier par 1000 habitants.
Voilà, bon, hein, vous voyez que ça fait peu, et dans un seul véhicule. Vaut mieux que ça se passe bien. Mais après, normalement, c'est une euphorie. Donc normalement, ça doit bien se passer.
D'accord.
Mais on n'est pas là pour courir la verbalisation. Je vais vous dire honnêtement, moi, ça m'embête aussi. Bah, je ne vais pas aller verbaliser les gens. Mais il faut aussi que le gouvernement soit clair. Et c'est très bien qu'il y ait une échéance de l'Euro, qu'il va y avoir des matchs de l'équipe de France, qu'il va y avoir des rassemblements après 23h. Et tous les matchs, et si vous regardez bien, tous les matchs de l'équipe de France seront à 21h, donc 23h, à un moment ou à un autre.
Je suis d'accord, c'est une excellente remarque, Fabrice. Très bonne remarque. Et effectivement, on va travailler sur ce sujet. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça fait 3 quarts d'heure qu'on parlait du couvre-feu, donc on va changer de sujet. Et on va parler des politiques. Sont-ils respectés? Vous avez peut-être vu l'enfarinement de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez peut-être vu également ce qui s'est passé sur le terrain avec Éric Dupond-Moretti qui a échangé avec un candidat du Rassemblement National. Et puis tout ça arrive après l'intervention, après la gifle qu'avait reçue le président de la République. Les politiques sont-ils respectés? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Roland Garros 2021.
C'est sur RTL.
Et nous allons retrouver immédiatement Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol qui sont en direct du central. Mesdames, messieurs, bonjour. Non, mais je suis triste parce qu'il va falloir un an avant que j'entende ce petit jingle. Mais c'était magnifique, Roland Garros. Donc, si vous voulez vraiment réagir, parler de Tsitsipas, si vous avez, pourquoi pas, non pas des doutes, mais si vous avez trouvé que c'est étonnant que Djokovic revienne en pleine forme après être passé au vestiaire, si vous avez vu Nadal Djokovic vendredi soir, qui était le troisième set, 97 minutes, c'était magnifique, intense, superbe, que des points gagnants, vraiment, c'était formidable, bah, appelez-nous, et puis on essaiera peut-être d'appeler Isabelle Langer, pourquoi pas. Laurent.
Et vous pourrez réagir après 14h à cet autre sujet, les propos glaçants de Mila, l'adolescente sous protection policière depuis 18 mois. Après avoir critiqué l'islam, elle s'est confiée hier soir sur TF1. Même quand je suis dehors, je suis en prison. On me dit de mettre une perruque, de mettre un chapeau, et elle pointe du doigt le manque de soutien.
La nation est fragile et lâche. J'ai employé ces termes et je ne mâche pas mes mots. J'étais pourtant persuadée que mon pays n'était pas comme ça. Personne ne fait rien. Parce que les gens ont peur.
13 personnes poursuivies pour harcèlement, menace de mort à l'encontre de la jeune femme seront jugées le 21 juin. Et quand on demande à Mila si elle arrive à se projeter, sa réponse.
Moi, quand on me demande, tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans? Bah, je me vois peut-être grande brûlée, peut-être avec une jambe arrachée, ou peut-être morte. Peut-être que je serai morte dans 5 ans. Je vais forcément pas rester en vie.
Pour Alexandre, Mila est le reflet de la lâcheté et l'hypocrisie politique. Soutien total à cette jeune femme, écrit Camille sur nos réseaux sociaux. Ce qu'elle vit est terrible. Où sont les mouvements féministes dans cette histoire, demande Bernie. Patricia craint qu'elle cherche une nouvelle fois à faire le buzz autour d'elle. A-t-elle besoin d'autant parler, se demande Philou. Je m'interroge, elle a tout essayé pour se faire connaître en même temps, écrit Benjamin. Mais tout ce comportement, conclut Robin, ne justifie pas les menaces de mort qu'elle reçoit. En aucun cas, aujourd'hui, elle n'a plus de vie. Vous pourrez réagir au 3210. Et puis quand le rappeur Booba reprend une chanson de France Gall, elle là et là, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, ça donne ça.
Deux versions, voilà. Exactement, à vous de choisir. Faut citer Audrey Crespo Mara de TF1 qui a fait l'interview de Mila, parce que c'est une interview vraiment remarquable qui est passée hier soir dans 7 à 8, hein, c'est bien cela. Mais vraiment une interview très très importante. Les politiques sont-ils respectés toujours? Nous sommes avec Laurent qui habite l'Eure-et-Loire. Bonjour.
Et oui, bonjour Pascal.
Vous
bonjour
souhaitiez réagir peut-être sur l'enfarinement de Jean-Luc Mélenchon, que personne ne doit cautionner, parce que même cette violence, fût-elle symbolique, ne peut pas être une bonne chose dans notre société, je pense.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Bonjour
aux auditeurs. Merci de prendre mon appel. Oui, je pense que cette situation dans laquelle nous sommes a deux causes. Il y a une raison pour moi qui vient des politiques. Et il y a ensuite les faits. La raison qui vient des politiques, nous avons eu un président normal, nous avons eu un monsieur Sarkozy qui essaie d'être normal également, nous avons un président Macron qui est proche du peuple, et en dénaturant le statut de l'homme politique, on arrive nécessairement à en rabaisser la considération qu'on en a dans l'esprit du quidam moyen. Ensuite, deuxième point, donc les faits. Ben les faits, nous voyons depuis plus de 30 ans des gens qui se cooptent entre eux. Nous avons eu une ambassadrice des pôles qui n'avait plus d'emploi. On l'a mutée ambassadrice des pôles. Elle n'a jamais foutu je ne pense pas, les pieds ni au pôle Nord ni au pôle Sud. Vous avez des gens qui se cooptent entre eux. Tu seras jugé, mais finalement, quand tu es jugé, on a l'illustration avec Monsieur Duhamel, qu'accessoirement, j'ai eu comme prof de droit constitutionnel, donc j'ai connu le bonhomme. Et on a des gens qui arrivent et on ne peut plus juger, les délais sont fort clos.
C'est factuel, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
On respecte le droit, je suis d'accord avec vous,
donc,
Pro.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est l'état de droit, c'est principalement...
Bien entendu, et je ne le conteste pas du tout. Alors,
concernant
M. Mélenchon, je suis factuel, je constate, je ne fais que constater. En ce qui concerne M. Mélenchon, bon, c'est pas plus particulièrement que ça, ou pas du tout mon bord, mais il y a d'autres façons de manifester son mécontentement. Le premier point, je ne me rends pas à sa manifestation. Ou autrement, quand il arrive à côté de moi, je lui tourne le dos. Moi, je suis désolé, mais à mon époque, on a sensiblement le même âge, on avait un petit peu d'autres principes que de balancer de la farine. Enfin, heureusement que c'était pas un œuf dur non plus qui s'est pris dans la figure.
Oui, parce que ce n'est que de la farine. Si ça reste que de la farine, je crois que François Hollande avait pris de la farine aussi.
Également, mais donc on peut dire que c'est anecdotique, mais le symbole reste. Le symbole, il est toujours là. Et prendre de la farine, c'est porter atteinte à un homme politique. Alors effectivement, mais je pense qu'ils payent eux-mêmes le galvaudage qu'ils ont tenté de faire depuis plus de 30 ans. Je suis désolé, De Gaulle n'était pas plus particulièrement bon bord non plus, enfin sur certains points. Mais enfin, De Gaulle payait sa note d'électricité. Moi, dans une autre vie, j'étais employé de banque. J'ai vu les notes d'électricité. On fête les 40 ans du président Mitterrand. Il mettait 3 ans à les payer. Essayez de payer votre note d'électricité avec 3 ans de retard, vous verrez, vous. Je suis désolé, je suis factuel. C'est des faits que j'ai constatés. J'ai eu les chèques en main. Avec des petites fleurs dessinées, puis des petits nuages, des petits machins. Donc ils se foutaient du monde.
Convenez aussi que critiquer l'homme politique, c'est de tout temps.
Ah ben ça a toujours été un sport national.
Voilà.
Mais en revanche, une chose que je vous dirais, souvenons-nous, on a discuté récemment sur Mein Kampf, souvenons-nous du roi de Yougoslavie dans les années 30 à Marseille, du ministre qui avait été descendu à côté, souvenons-nous de Kennedy. Attention, on part dans un mauvais sens. Et les urnes vont tomber, et je crains. Enfin, on avait discuté, je vous dis, de Mein Kampf récemment. Vous avez vu que c'était pas trop mon bord non plus, même si je suis un vieil anarchiste de droite, mais enfin, j'ai quand même une conscience politique. J'ai fait de l'histoire des idées politiques, donc j'ai vu un petit peu ce qui s'est dit à diverses époques. Mais je crains qu'on bascule dans un... Vous savez, le quidam moyen, le français moyen, quand on lui en fait trop... Il sanctionne, et il risque de sanctionner je ne veux pas dire du mauvais côté, moi c'est pas ma tasse de thé, mais beaucoup de gens risquent de basculer au plus simple, au plus simple.
Ce que vous voulez dire clairement, c'est que vous voyez la possibilité d'une élection de Marine Le Pen.
Et on a un président qui, à mon avis, ne cherche que ça.
Se trouvant
face à face.
Oui, alors ça, vous avez raison. Ça peut être. Mais de toute façon, c'est ce qu'indiquent les sondages. Et ce que vous rajoutez en plus, c'est que vous pensez que c'est une stratégie chez lui de faire tout pour qu'il se trouve en face de Marine Le Pen.
Vous voyez quelqu'un d'un côté, de quelque bord que ce soit, en face?
Pour le moment, non, mais à un an de la présidentielle, il y a toujours eu des surprises.
Oui, tout à fait. Récemment, on a eu des surprises. Juppé a été élu, etc., etc. Donc,
il a été élu, Juppé?
Non, Juppé a été élu dans les sondages.
Vous avez raison, oui.
Voilà.
Parce que ça m'avait échappé.
Non, vous
avez parfaitement raison.
Mais j'essaie d'être factuel, mon cher Pascal.
Mais il faut l'être, faut l'être. Et puis, en même temps, on s'amuse tous à faire des projections. Parce que nous sommes comme ça. Je pense que c'est dans la nature humaine d'imaginer, de faire des projections et puis d'essayer de savoir si elles seront tenues. Merci beaucoup, Laurent.
Je vous en prie.
Merci. On va continuer sur ce sujet. On pourra également parler, je l'ai dit, du tennis, si vous le souhaitez. Qu'avons-nous encore en magasin aujourd'hui? Mila, Laurent rappelait effectivement cela. Tous les sujets, comme toujours, que vous souhaitez mettre en avant. Monsieur Bois est arrivé.
Tout à
Olivier
fait.
Olivier Bois pour le Flash, dans la chaleur du studio. Il est 13h58. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le Flash, Olivier Bois.
Il n'y aura pas de tolérance demain pour l'horaire du couvre-feu à 23h. Pour le match Allemagne-France à 21h, le ministère de l'Intérieur affiche aujourd'hui un message de fermeté. Les joueurs de l'équipe de France qui arrivent d'ailleurs en Allemagne cet après-midi, ils vont s'entraîner au stade du Bayern vers 16h30. Depuis 9h30 ce matin, l'IHU de Marseille, dirigé par le professeur Didier Raoult, est perquisitionné par la police judiciaire de Marseille dans le cadre d'une enquête qui est ouverte pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. L'enquête sur le politologue Olivier Duhamel est classé sans suite. Le parquet de Paris confirme que les faits sont prescrits. Aucune autre victime potentielle n'a été identifiée. Olivier Duhamel, qui a reconnu avoir agressé sexuellement son beau-fils Victor Kouchner quand il était mineur dans les années 80. Les faits avaient été révélés par Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande. La Chine dément qu'il y ait une fuite dans sa centrale nucléaire de type EPR dans le sud du pays à Taishan. Pour autant, la centrale est sous surveillance. EDF, qui gère en partie la centrale, a été informé de l'augmentation de certains gaz, mais parle de phénomène connu et prévu dans les procédures. L'autorité palestinienne salue le départ de Benjamin Netanyahou et qualifie ses 12 ans au pouvoir comme l'une des pires périodes de l'histoire du conflit au Proche-Orient. Le nouveau Premier ministre, l'ultra-droitier Naftali Bennett, se retrouve à la tête de la coalition la plus hétérogène de l'histoire du pays, qui n'a trouvé comme point commun, finalement, pour dégager une majorité fragile, que la volonté d'écarter Netanyahou. L'actualité sportive, Stefanos Tsitsipas renonce au tournoi de la Halle sur gazon. Il se dit épuisé après sa finale perdue hier à Roland-Garros contre Novak Djokovic. Tsitsipas qui est désormais quatrième mondial. Et puis le quintet à Caen, l'arrivée provisoire à l'instant, le 8, le 5, photo finish entre le 2 et le 14, et c'est le 12 qui arrive cinquième. Confirmation de l'arrivée définitive tout à l'heure à 15h.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Est-ce que les hommes politiques ne sont pas suffisamment respectés aujourd'hui ? Subissent-ils de plus en plus de violences qui seraient exagérées ou en tout cas infondées ? Qu'en pensez-vous ? Nous sommes avec Jordan qui est étudiant à Lille. Bonjour Jordan.
Oui, bonjour Pascal, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien. Oui. Quel est votre sentiment ?
Alors moi, mon sentiment, c'est que j'aimerais bien essayer de retourner la question, en fait, demander si les politiques sont encore respectables, alors bien sûr en disant aussi que sans cautionner les actes de violence envers eux, mais est-ce qu'ils font encore tout ce qui est en leur pouvoir, justement, comme ils ont les clés du pouvoir, est-ce qu'ils font encore tout ce qui est possible pour qu'ils soient encore respectables ?
Mais pas, c'est des exemples, peut-être, Jordan, qui pourraient éclairer ce que vous dites. En Et quoi ben, trouvez-vous, parfait, par exemple, monsieur... qu'ils ne sont pas respectables ?
Par exemple, la prestation de M. Dupond-Moretti ce week-end, c'est vraiment une preuve de décadence de la politique qui est monumentale. Quoi. Le voir comme ça, avec des échanges complètement inutiles et vains, c'est vraiment quelque chose qui peut amener les gens à être très... dans un sentiment d'affront des politiques. Quoi.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu cet échange, ça s'est passé à Péronne, là où M. Dupond-Moretti était en campagne électorale, parce qu'il est dans les Hauts-de-France, et il rencontre à la terrasse d'un café Damien Rieux, qui représente le Rassemblement National, et effectivement, ils ont un échange qui est... comment dire, où ils s'échangent des amabilités, mais qui ne sont pas d'un haut niveau, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs.
Mais moi, je vois ça dans les deux extraits qu'on a vus avec Damien Rieux et avec François Ruffin aussi, parce que il y a les deux côtés de la déliquescence, je trouve, avec Damien Rieux, ça va être dans la prestation vraiment avec complètement débraillé, aucune tenue, il y a aucune prestance de ministre dans sa prestation. Et le deuxième échange, ça va être avec M. Ruffin qui lui oppose des chiffres de délocalisation à Mme Pannier-Runacher, etc. Et aucune réponse sur le fond. Ils sont là à distribuer des tracts et...
Là où vous avez raison, c'est que je ne comprends pas que Dupond-Moretti tombe là-dedans. Et c'est en cela que peut-être c'est pas un homme politique...
C'est ce que j'allais dire, oui.
Et je veux dire, j'allais dire terminé. Parce que d'abord, tu ne te mets pas devant des caméras sur une terrasse de café à argumenter sur le fond avec un de tes adversaires. Tu mets ça autour d'une télévision, sur un plateau de radio, pourquoi pas, mais pas de cette manière-là. Et le dialogue, c'était par exemple, je l'ai sous les yeux, c'est Damien Rieux qui dit, vous savez, ici, Monsieur Moretti, il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir. Donc Éric Dupond-Moretti, dans ces cas-là, je pense que le mieux, c'est de partir. Et lui, il répond, Collard a défendu l'assassin du juge Michel. Ça vous dérange moins ? Bon, Damien Rieux, on n'est pas à Fresnes, on est à Péronne. Allez promener votre Rolex. Éric Dupond-Moretti, tapez sur mes boutons de manchette, ce n'est pas une Rolex. Vous vous rendez compte qu'Éric Dupond-Moretti, on lui dit, allez promener votre Rolex, il dit, c'est pas une Rolex. Bon, franchement, il ne faut pas répondre. Il y a un moment, tu ne réponds pas, tu t'en vas. Vous avez vu de l'état de la justice en France, vous n'avez que ça à faire de vous balader là, dit Damien Rieux. Mais oui, vous allez tout régler, répond Éric Dupond-Moretti. Donc je trouve que c'est pas terrible des deux côtés. J'allais dire c'est minable, mais bon, comme M. Dupond-Moretti est garde des Sceaux, je vais faire attention à ce que je dis. Mais c'est pas terrible. Et je vous le répète, je ne comprends pas Éric Dupond-Moretti. Je ne comprends pas pourquoi il reste à échanger. Et puis après, effectivement, il y a eu un échange sur le marché de Péronne, cette fois avec François Ruffin. Bon, en revanche, là où vous êtes dur, c'est que Éric Dupond-Moretti, il est venu en politique, mais sans doute pour pour un intérêt assez noble de vouloir être utile à la justice. Il gagnait, c'est un secret de polichinelle, plus d'argent comme avocat. Donc, il y a cru sans doute. Et aujourd'hui, pour être un homme politique, Jordan, faut y croire quand même, parce qu'il n'y a que des coups à prendre. La preuve.
Eh ben, par exemple, ça serait 100 fois mieux qu'il reconnaisse l'impuissance des politiques aujourd'hui et de faire une démarche comme M. Hulot et de quitter son ministère en disant que là où il est incapable de pouvoir prendre des décisions aujourd'hui. Quoi.
Mais là, ce que je veux dire, c'est que si on leur tape tous, et moi le premier d'ailleurs sur la tête, plus personne ne voudra venir.
Ah oui, ça c'est sûr, mais être capable de reconnaître qu'ils ne sont pas capables d'agir s'ils n'ont pas un soutien, par exemple, populaire ou des choses comme ça, c'est aussi faire preuve un peu de démagogie en disant on va tout régler ou les autres sont capables de rien régler et au final ça avance et rien ne change.
Bon ben merci Jordan, en tout cas vous êtes en fin d'études peut-être parce que vous avez 25 ans?
Ben, je suis à la moitié d'études, je suis en thèse donc il reste encore quelques années.
Et dans quel domaine?
En mécanique des matériaux.
Alors ça je sais pas ce que c'est du tout, en mécanique des matériaux.
Oui, c'est par exemple on essaye de chercher des nouvelles formes de matériaux ou des nouvelles compositions de matériaux pour améliorer les structures aéronautiques par exemple.
Et c'est combien d'études?
Là je suis à bac plus 7 et ça se finit à 8.
Ah oui, donc c'est quand même la fin. Et après, quel est le métier que vous ferez?
J'aimerais bien être enseignant-chercheur, s'il y a encore des postes ouverts par l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation.
Bah écoutez, Jordan, merci. Merci de cela. Et puis, c'est toujours bien d'apprendre des choses comme ça à l'heure du déjeuner.
Et bah.
Donc, vous êtes un scientifique?
J'aimerais le devenir, oui, si bon. Possible.
Bah écoutez, en tout cas, il y a beaucoup d'humilité dans vos propos. Et c'était sympathique de vous écouter, de modération. Merci, Jordan.
De même, au revoir.
Merci beaucoup, 14h08. Vous saviez, vous connaissiez ça?
Pas du tout, un scientifique comme vous?
Mais non, je suis...
C'est plutôt la littérature.
On était plus littéraire que scientifique. Effectivement, les espaces vectoriels, c'était moins mon truc.
C'est vrai que vous faites un focus sur les espaces vectoriels.
Les espaces vectoriels, ça a été mal.
À chaque fois, vous pouvez en parler.
Et oui, parce que ça a été un traumatisme personnel. Mais je n'en parle pas, mais ça a été un traumatisme quand même.
Vous l'évacuez quand même souvent, hein.
Oui, c'est vrai. La géométrie, c'était dur. Hein, dans l'espace. On marque une petite pause. Oui. Et puis, nous revenons. Et comme il fait très beau.
Donc?
Ah donc, comme vous dites.
Je lis dans vos pensées. Hein.
On avait dit qu'on ne l'a pas passé jeudi et vendredi.
Non.
Faudrait qu'on se mette d'accord pour le passer combien de fois par semaine?
Trois fois par semaine.
Non, trois fois, c'est beaucoup.
Non, parce le lundi, le mercredi, le vendredi. Le vendredi, c'est...
On relance.
Voilà. C'est fou.
On relance. Alors maintenant, Jean-François Albertini dit Jean-François Maurice. Quoi. C'est Jean Albertini dit Jean-François Maurice. Et on a eu Barbe Olivier qui nous a expliqué la genèse de ce titre.
Mais c'est vrai que ça va bien avec cette météo. Hein.
Je caresse tes jambes.
Enfin, je disais pas ça pour ça.
Mes mains brûlent ta peau.
La pause.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les politiques malmenées, les politiques pas toujours respectées. Nous sommes avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Pascal.
Vous habitez la Charente?
Oui, j'habite la Charente.
Il doit faire chaud aujourd'hui en Charente. Hein.
Très chaud, très chaud. Nous restons à l'ombre et comme il y a toujours la répartition de l'activité se fait entre l'ombre et le soleil, aujourd'hui c'est plutôt l'activité dans l'ombre.
Bon, bah vous avez raison parce que c'est un département où quand ça tape, ça tape.
Hein. Oui, tout à fait, on monte jusqu'à 40 degrés.
Ah oui, c'est dans les terres.
Il fait 34.
34 là en ce moment?
Oui.
Ah oui, faites attention à vous.
Oui, oui, je fais attention à moi, oui. Puis j'ai la chance d'avoir une épouse infirmière, donc voilà. J'avais tout prévu lorsque je l'ai épousée, j'avais prévu les besoins nécessaires au fil du temps.
Écoutez, voilà qui... Je ne sais pas si elle sera satisfaite de cette déclaration d'amour, mais...
Très.
Bon, les politiques.
Les politiques, je pense que c'est une situation qui devient très dangereuse. Il suffit de regarder le résultat des dernières législatives. Je suppose que cela ne vous a pas échappé, la participation. La participation autour de 25%, tout parti confondu. C'est-à-dire, en gros, 75% des citoyens ne se sont pas déplacés pour aller voter.
Vous parlez législatives anticipées, quoi, des élections partielles, voilà. Oui. Bah, c'est souvent le cas, il y avait 16% de participation, mais c'est vrai que souvent c'est le cas.
Voilà, mais souvent j'entends les auditeurs qui disent on ne doit pas régler par une gifle, on ne doit pas régler par un sac de farine les problèmes, on doit les régler dans l'urne. Oui, à la condition que les gens aillent voter, à la condition qu'ils aillent s'exprimer dans les urnes. Mmh. Et maintenant, nous avons même des difficultés pour organiser les bureaux de vote, c'est-à-dire il y a de plus en plus de difficultés pour mobiliser des gens, pour être des assesseurs, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un problème réel. Et que ce qui m'inquiète, c'est pas la farine sur M. Mélenchon. Ce qui m'inquiète, c'est pas spécialement le geste envers le président de la République. C'est que tout ça, ça met la démocratie en danger. Et nous sommes en danger en ce moment. Nous le ressentons. C'est-à-dire autour de moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « j'irai pas voter pour les régionales, ça ne sert à rien, j'irai pas voter pour les cantonales ». En plus, toutes ces expressions, moi je suis un élu local, mais en tant qu'élu local, nous devons être admiratifs envers nos élus locaux. Il y a des centaines de milliers d'élus en France qui font leur travail quotidiennement, bénévolement, qui font un travail considérable. Donc, légitimement, on ne doit pas les maltraiter, parce que ce travail est indispensable pour le fonctionnement de nos institutions. Ne parlons pas seulement, j'aime pas l'expression « haut fonctionnaire », il n'y a pas de « haut fonctionnaire », il n'y a pas de « bas fonctionnaire », il y a des fonctionnaires au service de la nation. Les élus, c'est la même chose, il n'y a pas de petits élus, il n'y a pas de grands élus. Il y a des élus qui ont été désignés pour gérer notre pays. C'est compliqué tout ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est vrai, mais bon, le problème qui se pose actuellement, je suis aussi un enfant de Belleville. J'ai habité à Belleville et j'allais dans une école rue Ramponneau. Vous savez ce que veut dire Ramponneau ? Ça veut dire c'est le coup de poing. On a toujours fait à Belleville le coup de poing, on a arraché les pavés maintes et maintes fois pour les révolutions, etc. Donc c'est légitime. Mais attention, nous ne sommes plus au 19e, nous ne sommes plus au 20e siècle, nous sommes au 21e. Et les moyens de communication, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui ont tout sauf la relation sociale. Donc je suis très inquiet, moi, pour...
Bah écoutez, merci Jean-Claude, parce que c'est vos paroles, effectivement, pleines de modération. Et puis vous avez un certain âge qui permet de vous écouter peut-être avec plus d'attention, parce que vous connaissez toutes ces périodes-là. Hein. Vous avez 77 ans, je peux le dire, donc il y a quelque chose peut-être de sage dans ce que vous avez dit, qui mérite qu'on l'écoute avec attention.
Et 44 ans de mandat.
Et aujourd'hui, vous ne l'êtes plus, en revanche. Vous avez pris du recul.
Comment ?
Aujourd'hui, vous êtes toujours élu local ou vous avez pris du recul ?
Toujours élu, j'ai été réélu en 2020.
Bah écoutez, félicitations à vous. Félicitations et merci beaucoup Jean-Claude pour ces paroles. Une dernière
merci
pause
RTL,
peut-être.
Merci Pascal.
Merci.
Au revoir.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Patrick sur les politiques qui ne seraient pas respectées en direct de Cannes. Bonjour Patrick.
Bonjour Pascal. Et écoutez, je pense que je reprendrai une formule qui est bien connue. Le respect ne se doit pas, il se mérite. Et pour respecter nos hommes politiques, faudrait-il encore qu'eux-mêmes se respectent entre eux ? Les derniers discours, les dernières interventions de ministres, le garde des Sceaux ou d'autres ont démontré qu'ils étaient incapables de se respecter entre eux. Donc... ça va être difficile d'imaginer qu'on puisse les respecter. Aujourd'hui, il y a une fonction qui est respectable, c'est celle de président de la République, parce qu'il est élu au suffrage universel, comme d'autres, bien sûr, mais il est essentiel sur le terrain, en tout cas au travail. La deuxième fonction, c'est l'élu du village, le maire, qui, lui, tous les jours, a la main dans le cambouis, et effectivement, il est respectable. Les autres, eh bien, les autres, faudrait-il encore qu'ils nous démontrent qu'ils sont respectables.
Mais par exemple, qui vous ne trouvez pas respectable parmi le personnel politique aujourd'hui ?
Moi, je suis un électeur, je peux le dire, je suis un électeur du Parti Républicain. Mais lorsque j'entends le ministre de l'Intérieur cracher sur 20-30% des gens qui ont voté pour Mme Le Pen ou qui voteraient pour Mme Le Pen, ou en la traitant de diable, de satanisme, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit.
Alors, c'est pas exactement... Ce qu'il dit précisément, c'est qu'une victoire du RN serait une marque satanique. Voilà ce qu'il a dit. Alors, ça revient un peu à ce que vous dites, mais ce n'est pas tout à fait ça quand même.
Oui, enfin, dans tous les cas...
C'est interprété comme ça, en tout cas.
Voilà, le fond reste le même. Je pense que, de toute façon, ce sont des discours qui ne sont pas respectables.
lorsqu'on on a des fonctions aussi importantes que garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, lorsqu'on a des attitudes, lorsqu'on est la deuxième ministre de l'Intérieur et que on a plutôt l'impression d'être au Club Med, bon, c'est pas très respectable tout ça.
Vous parlez de qui là? De Madame Schiappa?
Pas tout simplement. Hein.
Bon, oui, et c'est la chronique ce matin de Cyprien Sini et où elle animait un débat et un meeting de campagne.
Oui, c'est non mais elle est certainement charmante comme je dis, mais l'attitude, n'oublions pas qu'elle est au gouvernement. Je veux dire.
Et là, oui, mais vous trouvez que c'est pas respectable, par exemple,
non,
de mettre un peu comment dire, j'allais dire de joie de vivre, mais de spectacle dans cette mise en scène là. Ça a été très critiqué d'ailleurs.
On ne va pas au spectacle. Ouais. Lorsque tous les 5 ans, on nous demande d'aller voter, on ne va pas au spectacle. On prend une journée sur nous, enfin un petit moment, sur nos temps libre pour se déplacer, pour attendre quelque chose d'eux. Je veux dire, aujourd'hui, un homme politique, moi, je préférerais qu'ils battent entre eux sur des projets, sur des bilans, mais pas sur des phrases creuses où il faut voter en sautant à pieds joints. Je veux dire, c'est infantiliser les électeurs comme ils le font, ce n'est pas respectable. Donc, je suis totalement opposé qu'on puisse avoir un geste, même un mot déplacé envers le président de la République, qu'on puisse avoir un mot ou un geste envers un homme politique, mais pas plus un homme politique qu'un autre individu. Moi, je respecte mon voisin parce qu'il me respecte. Si demain mon voisin ne me respecte plus, je ne le respecterai pas et j'agirai en fonction d'eux. Alors nous, au niveau électeur, la façon de réagir, alors ça passe par l'abstention, c'est dommage, le bulletin blanc,
par
différentes choses.
Voilà. Merci Patrick. Je vous donne une information juste avant le débrief de Laurent Tessier. L'IHU de Méditerranée perquisitionné depuis ce lundi matin 9h30, c'est les informations de France Bleu Provence. Une dizaine d'enquêteurs accompagnés d'un procureur de la République de Marseille sont dans les bureaux de l'Institut marseillais dirigé par le professeur Raoult. Évidemment, la perquisition est en cours et ça sera fortement commenté, mais on ne connaît pas encore l'objet de cette perquisition qui est toujours en cours. Ce sera évidemment développé notamment dans le journal ce soir de 18h, je pense. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Le couvre-feu à 23h est-il tenable? Faut-il le supprimer dès maintenant et ne pas attendre le 30 juin? Vendredi et samedi soir, des jeunes se sont rassemblés par centaines sur les grandes pelouses des Invalides à Paris. Elisa était là.
C'est vrai que c'était vraiment une vraie grosse soirée. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'affrontements vers la fin. On n'a vraiment pas beaucoup vu de masques. Il n'y avait pas du tout de distanciation sociale.
Les policiers sont intervenus pour faire respecter le couvre-feu. Coup de gueule d'Erel au 32-10.
Deux poids, deux mesures qu'on a aussi vu ce week-end. Parce qu'en fait, pendant que justement ces jeunes-là étaient en train de se faire réprimer par la police, on avait par contre le public de Roland-Garros qui était totalement autorisé, qui avait été autorisé par le gouvernement à braver le couvre-feu. Il y a la répression qui s'applique sur les jeunes, etc., qui en fait sortent faire la fête.
Des soirées qui ont énervé l'infectiologue Benjamin Davido, invité de RTL Midi.
Je trouve que c'est un bras d'honneur aux soignants.
Et sinon, Paul a l'air de se faire plaisir.
Vous êtes dans le Var, vous êtes chef d'entreprise. Je suis pas sûr que vous ayez plus chaud que nous aujourd'hui parce qu'il fait très chaud à Paris.
Ah bah l'eau de la piscine chez moi est à 27 degrés.
Ah, oh, elle est belle la vie.
Ah bah écoutez, là c'est... Excusez-nous, cher ami. Je veux dire, nous vivons dans des appartements à Paris. Nous n'avons pas de piscine et de maison. Pardonnez-moi. Ah, vous avez la belle vie.
Oh, la belle vie.
Et puis, vous le savez, on adore faire des petites devinettes dans l'émission. Tiens, Fabrice Policier qui souhaite rester discret sur sa commune. Où habitez-vous? Allez, un indice.
C'est une ville de combien d'habitants?
Sans la cité, c'est la ville des Jeux Olympiques de 92, quoi. Voilà.
Ah, d'accord.
Va-t-on craquer et dévoiler la ville?
C'est les Jeux Olympiques d'Albertville.
Mais j'ai pas cité le nom.
Bon.
Vous voyez comme quoi vous avez. Hein, vous êtes très fort, monsieur
Macron. Bon, je suis très fort. Non, mais je vais regarder surtout combien il y a d'habitants dans la ville dont on ne cite pas le nom.
Mais rappelle que nous sommes toujours discrets dans l'émission.
C'est les Jeux Olympiques d'Albertville.
Aujourd'hui, oubliez la distanciation physique entre Greg Caranouni et Pascal Pro. La chaleur, l'ambiance caliente prend le dessus.
Je caresse tes jambes.
Ah, je disais pas ça pour ça.
Mes mains brûlent ta peau.
Petit coquin, ce Greg. Allez, un dernier mot, Christelle Robière.
Ce sera tout.
Oui, c'est bientôt terminé, mais rappelez quelque chose, Pascal.
Je rappelle que c'est les auditeurs ont la parole.
Oui. Un dernier mot, Marlène Schiappa, si je décidais de me lancer dans la présidentielle.
Votez Laurent, allez.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une demande spéciale en régie pour cette fin de semaine. Allez-y, poussez la chansonnette, là.
Monsieur Caranoni ne veut plus. Il dit que je gâche les morceaux de musique quand je pose ma voix dessus.
C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'en profiter, en réalité, quand vous le faites.
C'est pour ça que... En revanche, on va pouvoir profiter de Flavie Flamand.
Absolument. C'était comment s'appelle la séquence de Laurent Tessier ?
Le débrief.
Parce que j'ai pas entendu ça tout à l'heure.
Juste avant le débrief...
Pardon.
J'ai chanté.
Bien sûr, ça arrive.
C'est la version du débrief en Allemagne.
J'ai une articulation un peu molle.
Mais elle était impeccable, c'est
ça
rare.
Ça peut arriver parfois.
À tout peut arriver.
Je vois que Madame Flamand est là. Je la salue. Sa blondeur va illuminer ce studio. Elle entre. À l'instant, elle nous salue. Elle
petite
tourne
danse,
sur elle-même.
Magnifique
petite danse,
pas de danse
a-t-elle fait. Elle est habillée d'une jupe fleurie et d'un t-shirt noir. Elle fait quelques pas dans le studio, telle une mannequin sur des podiums.
Pardonnez-moi de vous interrompre, je pense qu'elle préférera avoir un peu plus de temps pour son émission que d'écrire
la tenue du jour. Après,
je me trompe peut-être.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.